Kwai.
Bonjour,
ici Alex Wawadaloat.
Robert Blondin ici. C'est une toute nouvelle émission, une série d'émissions, Alexis.
En effet, Robert.
On se connaît pas, mais on va se rencontrer.
Ben oui.
On va se rencontrer comme nos deux communautés, en fait. Hein. Bon, moi, je suis un blanc pur blanc, puis toi, t'es...
Un autochtone pur autochtone abénaki.
Ben, mais en tout cas, on va aller en détail là-dessus.
Ouais.
On fait une émission là-dessus. C'est pas une émission documentaire sur les Autochtones. On a décidé de faire une émission ensemble sur les ponts. Ce qui relie les tentatives de pont à établir entre les deux communautés, les trois ou les quatre communautés, selon les cas.
En essayant d'avoir une plus grande place possible pour les voix autochtones.
Ben, c'est ça. Mais au lieu d'avoir les voix habituelles qui sont souvent peu plus folkloriques, des fois historiques, revendicatrices, on peut avoir tout ça.
Mm-hmm.
Mais on essaie de voir là où il y aurait des initiatives finalement intéressantes et qui pourraient...
Qui mériteraient qu'on mette de la lumière dessus.
Ben, c'est ça, exactement. En parlant de lumière, là, ça en mettait un peu sur toi, là, bon... Moi, il y en a qui me connaissent, puis c'est pas nécessaire non plus de me connaître, mais à soi. Il fallait depuis 11 ans qu'ils traînent devant des micros.
Ben oui, ça a l'air qu'il faut passer par là, donc il faut que je me présente.
Alexis, t'es Abénaki?
Oui.
Bon.
Abénaki et québécois, si on veut être plus précis. Ma mère est Abénakise et Wendat, fait que je pourrais même me revendiquer un peu Wendat, Huron. Ma mère, c'est une Siwi, puis mon père, c'est un Larouche de Valsenville, proche de Val-d'Or.
Qu'est-ce qui fait qu'on est ou on n'est pas un Autochtone?
Ah ben, je pense...
Parce que là, tu parles, ton père est de Val-d'Or, mais c'est un autochtone.
Non, c'est un...
Bon, tu vois, et t'es autochtone.
Ben oui.
Bon, explique-moi ça, là.
Explique-moi ça. Ben, ça va dépendre beaucoup de notre culture, dans quel environnement on a été élevé. Certes, j'ai été élevé à Val-d'Or. Oui, je suis allé dans des écoles majoritairement non autochtones, mais la culture autochtone a tout le temps eu une importance dans ma vie. Je m'en aperçois aujourd'hui, tu sais, quand j'étais plus jeune, ado, tu cherches ton identité, puis tout ça, je me dis « Ah, dans le fond, je suis pas vraiment autochtone. » Mais finalement, je me suis rendu compte que ma mère a tout le temps placé, d'une manière ou d'une autre, la culture autochtone, la culture Abénaki, sa culture. Ma mère, c'est une artiste assez connue dans le monde des Premières Nations. Donc, avoir un imaginaire, un autre narratif aussi, ça faisait partie de ma réalité que je me suis aperçu comme en vieillissant. Ma tante, Monique Siwi, est une militante des femmes autochtones qui avait une place, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les femmes autochtones au Québec. Encore là, elle m'a beaucoup appris, mais tous mes liens aussi avec les Anishinaabés à Val-d'Or ou dans la région de l'Abitibi, et mon lien avec le Centre d'amitié autochtone a pu préserver chez moi justement cette identité-là, la faire grandir.
Mais quand tu avais 12-13 ans, par exemple, mm-hmm. t'avais-tu le goût d'être autochtone ou blanc?
Ben c'est ça, j'avais un déchirement interne en moi sur justement ce nationalisme. J'ai tout le temps été à quelque part, je pense, nationaliste. Et ce déchirant en moi, ces identités-là entre... mon nationaliste autochtone, que je voyais nécessairement relié à un fédéraliste canadien, vu qu'on pourra parler un peu de ça, mais notre habitude avec la relation fiduciaire, avec le gouvernement fédéral, la relation qu'on a avec ce gouvernement-là m'amenait à avoir cette préconception-là des choses. Et mon nationaliste de l'autre côté qui commençait à émerger, mon nationaliste québécois. Et... à l'adolescence, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé, puis on nous amène à vouloir choisir d'un bord ou de l'autre quand on a des identités multiples comme ça, j'ai décidé de pas choisir, d'être qu'est-ce que j'étais, et d'embrasser mes sentiments nationalistes abénaki, autochtones, et mes sentiments nationalistes québécois.
Mais ça, tu vivais pas dans une réserve, toi, là?
Non, je vivais à Val-d'Or.
Mais c'est quoi tes relations avec les gens de la réserve?
Ben, j'allais voir ma grand-mère régulièrement. J'ai de la famille un peu là-bas. J'ai vécu aussi quand j'avais 7 ans sur la réserve d'Odanak, sur la communauté d'Odanak. Donc, il y avait beaucoup de liens là, mais mes liens n'étaient pas juste avec ma nation d'origine, ils étaient aussi avec les Anishinaabés, parce que je vivais en territoire Anishinaabé, en territoire algonquin, à Val-d'Or. Donc, ma tante Monique était mariée justement avec un Algonquin. Fait que c'est sûr que ça a beaucoup eu d'influence sur moi, sur mon identité aussi.
Est-ce que c'est fréquent, ce mélange de nationalités
amérindiennes? Ben oui, on était des nomades à une certaine époque. Donc, on se rencontrait d'une nation à l'autre. Il y avait des grandes fêtes, des grands powwows où, justement, on le voit ça un peu aujourd'hui. Ce phénomène-là, quelque part, dans les tournois de hockey amérindiens. Dans les tournois de hockey, j'ai moi-même dit le mot, mais les tournois de hockey...
C'est un mot que t'aimes pas, on va dire ça, amérindien.
Mais c'est comme ça que je l'ai tout le temps entendu dans mon enfance. Mais les tournois de hockey autochtones, les tournois cri, les tournois algonquins, puis tout ça, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de brassages, de beaucoup de communautés qui se rencontrent, et de là sortent des unions internationales.
Est-ce qu'il y a des oppositions, des petites chicanes entre nations?
Oui, ben c'est pas toutes les nations qui ont les mêmes intérêts. On peut penser aux Cris qui ont signé un accord, une entente, une convention de la baie James et qui a tout un territoire délimité par ça. Ben, ces territoires-là qui sont au sud de la convention de la baie James souvent chevauchent. Parce qu'en territoire, en question territoriale autochtone, il y a souvent des chevauchements de territoires entre différentes nations. Et tout le sud de la convention de la baie James, ben, c'est des territoires de chevauchement algonquin, Anishinaabe, Atikamekw, Innu. Donc, on peut voir que là, il y a quand même des divergences d'intérêts.
Qu'est-ce qu'il y a de vraiment autochtone dans ton tempérament, ton caractère?
Faudrait demander peut-être aux autres.
Bon, écoute, il y en a un pourtant, t'as un cheveu long.
Ah ouais, ben ça, oui, OK.
Alors pourquoi les Autochtones ont un cheveu long? Moi, il y a des carrés, moi.
Ben, vous demandez à un métalleux pourquoi il y a des cheveux longs, en fait, là.
Non, mais c'est vrai.
Oui, mais là, mes cheveux longs, ils peuvent être liés à mon côté métalleux autant qu'à mon côté autochtone. Donc, mon côté autochtone...
Mais il y a beaucoup d'Autochtones qui ont les cheveux longs, qui portent les cheveux longs comme une signature.
Une signature, c'est quelque chose de spirituel. Le lien avec la terre-mère, un hommage aux femmes, à la féminité, une acceptation de ma féminité aussi. Ça pourrait être des éléments qui font que j'ai des cheveux longs, en plus du fait que je suis métalleux.
Un métallo, c'est un autochtone moderne. Ça.
Ben là, j'ai grandi dans ce monde-là, puis...
Mais excuse-moi de t'interrompre, as-tu été intéressé jeune à l'histoire des Autochtones?
Dans la mesure où je t'intéressais à l'histoire en général, jeune, oui. Est-ce que j'ai pu avoir accès à l'histoire autochtone autant que j'en aurais voulu, autant que je l'aurais souhaité? Non. Est-ce que c'était aussi accessible que l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ou l'histoire... Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais vraiment presque spécialiste dans les principautés allemandes pré-Second Empire ou du Second Empire. Donc, c'est peut-être une question d'accès, mais oui, ça m'a toujours intéressé.
Mais quand tu as appris l'histoire du Canada ou du Québec à l'école, pour toi, là, il y avait les sept martyrs canadiens là, qui se faisaient torturer par les Américains. Bon, c'est ça qui arrivait.
C'était un peu moins pire qu'à une certaine époque, mais oui, c'était très simplifié. On parlait des Algonquiens, des Iroquois, et l'histoire est racontée de la perspective du gagnant, de celui-là qui a pris le territoire. Donc, c'est sûr que peut-être qu'à l'époque, j'avais pas encore toutes la critique ou la profondeur critique pour pouvoir l'analyser, mais les choses changent. Ma fille, qui avait 7 ans il y a quelques années, déjà était capable de voir que dans ses livres d'école, il y avait pas assez d'histoire autochtone, puis elle a même été un petit peu dérangeante en classe, puis une punition à cause de ça. Puis on lui demande, ben pourquoi t'as fait une danse devant la prof? Ouais, ben j'étais tanné, il parlait juste de l'histoire québécoise, il parlait pas de mon histoire. À 7 ans, j'étais fier de ma fille.
Ah, mais c'est sympathique, ça, non? On voit pas ça souvent, il me semble.
Ben, je sais pas trop. Je me suis dit que j'ai quand même pu y faire apprendre un peu son histoire, puis elle a pu être consciente de ça. Donc, ça dépend des élèves qui s'intéressent des fois à des choses comme ça. Moi, c'était un peu mon cas quand j'étais enfant. Je me rappelle que Une de mes profs au primaire me disait, tu sais, Alexis, tu pourrais écouter les nouvelles de 6h au lieu de celles-là de 20h. Puis moi, lui répondre, ben, celles-là de 20h, celles-là de 22h sont plus complètes au niveau international.
Ah oui, c'est... Est-ce que tu as déjà eu à subir le fait d'être autochtone?
Oui, ben ça, c'est pas mal quelque chose de quotidien, le racisme, quand on est une personne racisée ou un autochtone. C'est soit qu'on le vit directement, le fait qu'on a à vivre des événements où on va se faire dire qu'on vaut moins, ou comme un exemple, quand j'avais 10 ans, je me suis fait sortir d'une plage par un gars avec une barre de fer, le crâne rasé, puis une croix gammée sur le chest, qui disait à mon père, ah ben, t'as fourré une indienne, tu sais, puis moi j'avais 10 ans, puis mon frère en avait 8 ans. Donc, c'est des choses qu'on a pu voir, mais il y a aussi toute la question de l'intériorisation du racisme quand on est autochtone. On intériorise la vision coloniale qu'on peut avoir de soi, on intériorise les attentes qu'on peut avoir envers soi ou les peurs qu'on peut avoir envers soi. Un exemple, on a tout le temps, quand ça arrive aussi aux hommes noirs ou aux femmes noires, ou le mythe de l'Indien fâché, du angry black man, du angry Indian. Et j'ai appris à justement gérer mon ton de voix, faire attention à comment j'allais m'exprimer pour pas qu'on tombe dans ces préjugés-là qu'on a envers les Autochtones, pour qu'on puisse écouter mon message puis qu'on fasse pas juste me ramener à quelqu'un de fâché.
Tu as vécu ton enfance, ton adolescence à Val-d'Or, finalement.
Mm-hmm. Ouais.
Est-ce qu'il y a un peu de friction entre les Amérindiens, j'en reviens avec le mot Amérindien encore, mais là, je vais me corriger, c'est les Autochtones, ouais. c'est ça le jeu aussi. Est-ce qu'il y a une friction entre les Autochtones en réserve et ceux qui ne le sont pas?
Ben encore là, c'est une question des fois d'intérêts divergents. Il peut y avoir des critiques contre des organisations urbaines comme les centres d'amitié qui viennent de conseils de bande du fait que le financement va souvent peut-être leur être attribué, puis on manque de financement d'un côté ou de l'autre. Donc c'est sûr que quand, je vais donner un exemple, quand est arrivée la crise policière en 2015 à Val-d'Or, où des femmes autochtones ont dénoncé ce que les policiers leur avaient fait. Bien, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a quand même eu un certain financement, ce qui était correct parce que c'était eux qui étaient la première ligne de front, mais en même temps, il y avait beaucoup de ces personnes-là qui vivaient des choses à Val-d'Or, qui retournaient dans leur communauté à Lac-Simon, puis Lac-Simon n'avait pas ce financement-là. Donc, puis avait un manque de ressources pour répondre à ces besoins-là. Donc oui, il peut y avoir certaines tensions entre des Autochtones urbains et non urbains. C'est triste, mais c'est souvent la question de la tarte où le gouvernement nous dit on a des X montants à distribuer, puis les communautés se retrouvent bien souvent mal dépourvues, puis c'est ça.
Mais dans le genre de vie, par exemple, souvent en réserve, on va faire de la chasse et pêche encore, ouais, etc. Quand tu vis à Val-d'Or, la chasse et pêche, t'en fais-tu?
Ben moi, j'en ai pas tant fait que ça. J'ai fait un peu de chasse, plus de la pêche quand j'étais jeune. Cette différence-là entre un autochtone urbain ou pas urbain, ou métissé ou pas, oui, on peut en entendre parler. On va des fois, comme on va entendre des autochtones dire que toi, t'es une pomme, dans le sens que t'es rouge à l'extérieur puis blanc à l'intérieur.
Ça s'appelle une pomme? C'est drôle parce que les Algériens disent ça aussi des gens qui ont un extérieur arabe, mais qui sont comme des Blancs à l'intérieur. Ils agissent de la même façon. Mm. Ça existe aussi aux États-Unis pour les Noirs, qu'on dit qu'ils sont des Noirs de l'extérieur, mais Blancs à l'intérieur. Ça existe aussi chez eux. Ah, c'est incroyable. Hey, on parlait d'art, de culture.
Oui.
Toi, quand tu disais que tu étais métallique un peu, là.
Un métalleux, oui.
Ouais, mais t'étais un métalleux, mais la musique autochtone, es-tu sensible à ça? L'écoutes-tu?
Oui. Comme un des grands artistes qui a bercé ma jeunesse, puis mes voyages, c'est Willie Dunn. Mi'kmaq, qui était réalisateur à l'ONF, qui fait du folk country. C'est quelque chose que j'aime beaucoup écouter. Call Tribe Red, c'est un autre groupe que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'électro, j'aime beaucoup ce qu'ils font, ce qu'ils mélangent avec l'électro. Donc oui, j'écoute de la musique autochtone aussi.
On va en écouter un peu.
Oui.
Fast through the traffic,
super fast.
Zoom, yeah, watching panic. I need the bread, I need the Benny. Stacking cheese to the moon. Wallace and Gromit,
yeah.
They really thought we lost. Forgot that we helped them walk. Couldn't really kill us, couldn't subdue us. Gonna need bigger parks.
C'était America feat OG Le Cri de Anakid, qui était nominé au dernier gala de la CDIS dans la catégorie Artiste autochtone de l'année.
C'est très beau. C'est vraiment très beau. C'est pas uniquement folklorique. Là. Il y a vraiment un contenu intéressant pour moi, en tout cas.
Mm-hmm. Oui. Oui, oui, c'est une bonne artiste. Moi, je la connaissais plutôt pour ses œuvres visuelles, Anakid.
Ah bon?
Oui. C'est une artiste multidisciplinaire.
Je voudrais parler avec toi un peu, Alexis, de... du concept de Première Nation.
Mm-hmm.
Hein, toi, t'es assis là, t'es des Premières Nations, je suis assis ici, je suis de la deuxième ou troisième, je sais plus. Mais est-ce que c'est aussi ancré profondément qu'on croit chez les Amérindiens? J'ai plus mal qu'on va pogner pour dire Amérindiens.
Ou les Autochtones.
Les Autochtones. Est-ce que c'est ancré, solide, le sentiment que c'est chez vous, ici?
Ben encore là, je vais te dire, ça dépend encore d'une nation à l'autre, du niveau d'acculturation des niveaux d'une nation à l'autre, à quel point une nation peut encore vivre de son territoire quand d'autres le vivent moins. Tu sais, chez les Innus, les Atikamekw, qui sont assez dans le bois, qui continuent à vivre de la chasse, qui continuent à occuper le territoire, ce sentiment-là d'être les gardiens du territoire va être plus exacerbé que chez d'autres nations qui sont plus urbaines.
Mais actuellement, là,
mm-hmm.
est-ce qu'il y a quand même un certain nombre d'Autochtones qui comme, sont prêts à revendiquer leur bon vieux territoire qui leur appartenait?
Mm-hmm.
Ouais. Ça existe, là.
Ouais,
on
ouais,
fait on... quoi avec ça?
Ben, on fait quoi avec ça? Il faut en arriver à des solutions où on puisse avoir un vrai contrôle effectif sur le territoire. Ouais. En ce moment, le système de justice est très colonial. La majorité des injonctions qui sont demandées, c'est pour aller tasser des Indiens quand ils dérangent, pour pouvoir passer soit le pipeline ou sortir le bois de la place. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Comment on va en arriver là? C'est comment on fait pour partager le pouvoir? C'est une question de pouvoir, le racisme, à la base. Si on regarde, on se recule dans le temps, le racisme, pourquoi on a mis en place des lois racistes? Pourquoi on a tassé les Indiens? C'est à cause qu'il fallait tasser les Autochtones, prendre leur territoire, prendre les ressources qui sont sur le territoire. Donc, tout est relié à ça, à ces questions de pouvoir-là. Donc, si on veut vraiment comme en arriver à une solution qui est viable à long terme, ça va être le partage du pouvoir. Les cris... Bon, je suis pas en train de dire qu'ici que la Convention de la Baie de James devrait être la solution qu'on devrait appliquer à tout le Québec. Parce qu'il y a quand même toutes des parties quand même assez sombres, comme la cession de territoire là-dedans, et puis... C'est pas la panacée, mais si ça fonctionne, si le gouvernement du Québec se gargarise tout le temps en disant « Oui, nous autres, avec les cris, ça va bien », mais c'est pourquoi que ça fonctionne? C'est à cause qu'il y a un partage de territoire là-bas. Les cris ont les moyens de leurs ambitions pour faire vivre leur culture, ont des moyens pour leurs ambitions pour faire vivre leurs enfants dans la langue, dans la culture cri, ont les moyens de leurs ambitions pour faire en sorte que les trappeurs cri puissent continuer à attraper, puis à être supportés, puis à protéger le mode de vie traditionnel. Puis si on veut pas vivre le mode de vie traditionnel, il y a aussi des emplois pour pouvoir vivre dans la vie moderne. Il y a moyen de vivre de façon moderne, de façon traditionnelle, ou un peu des deux pour les cri. Et c'est eux qui ont ce pouvoir-là de pouvoir se définir, se déterminer dans la...
Mais c'est pas toutes les nations qui l'ont, c'est ça le problème.
C'est juste eux qui ont une convention. Donc, si on veut en arriver à quelque chose où les autres nations vont pouvoir avoir un mot à dire sur leur destinée, il va falloir justement penser à partager le territoire, partager le pouvoir, partager... puis faire des réparations, tu sais, aussi...
C'est quoi ça, des réparations pour
ben
toi?
Des réparations, entre autres, en termes de culture. Vous connaissez, tu connais la chanson de Pauline Julien, Mamie. Ben, le sentiment qui est exprimé là-dedans, moi je le vis depuis que je suis adolescent. J'ai pas eu le droit d'apprendre ma culture, j'ai pas eu le droit d'apprendre ma langue. Des réparations en termes de toutes les dommages faits, non au point de vue culturel, au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue territorial. Donc, il va falloir penser justement qu'on aille des territoires bien définis où on va pouvoir se projeter et d'autres territoires, un peu comme chez les Cri, qui font en sorte qu'on puisse justement avoir une co-gestion du territoire.
Moi, j'ai l'impression, Alexis, qu'il y a une différence de génération. Moi, je suis un vieil homme, OK? Mm-hmm. J'arrive à 80 ans, là.
Ouais. Bon.
Quand je regarde les plus jeunes, mes petits-enfants, par exemple, ou même mes enfants, ils sont beaucoup plus favorables à tout ce qui est entente avec les Autochtones, etc. Mais regarde des gens comme moi. On a été élevés à quoi, tu penses? À regarder des films western, mm-hmm. où les Indiens, c'est les méchants, on les tue à coups de fusil. Quand on parle d'histoire, on parle de Windham Lee aux États-Unis parce que là, on les a anéantis. On est content parce qu'on veut avoir de la place pour installer un chemin de fer, pour aller installer des colons et se rendre jusqu'au Pacifique.
Ouais.
Et en plus, on nous dit qu'il ne faut pas jamais donner d'alcool aux Indiens. Ils ne supportent pas ça puis ils viennent fous. Bon. J'étais élevé là-dedans. Mm-hmm. Et puis, c'est des choses énormes.
Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'environnement dans lequel on grandit, le narratif dans lequel on grandit influence notre vision des choses. Quand on parle de représentation effective des Autochtones dans les médias ou de personnes racisées dans les médias, c'est relié à ça. Si on n'a pas notre perspective, on n'a pas notre vision des choses dans tous les médias, ben cette perception-là qui a été établie, qui vient de lois racistes, qui vient de mentalités racistes, pour justement avoir le contrôle sur le territoire, vont se perpétuer. Parce que le colonialisme aujourd'hui n'est pas terminé. Si on regarde encore là en Abitibi, tu sais, les mines, c'est qui a les meilleurs jobs? C'est en généralement pas des Anishinabés.
Élèves-tu tes enfants? Est-ce que ta femme est autochtone?
La mère de mes femmes... mes femmes. Les femmes de ma vie.
Non, écoute, c'est peut-être une coutume que je connaissais pas.
Non, la mère de mes filles, je suis plus avec la mère de mes filles. Oui, elle habite à Odanak, donc j'ai mes filles... assez régulièrement. Ils sont imprégnés de ça en vivant là-bas, oui. Et ma petite dernière, qui s'en vient en février, elle va avoir une identité particulière. Sa mère est haïtienne.
Oh, donc, mon Dieu!
Ça va faire un beau mélange.
Quand on regarde la vie culturelle autour de toi, est-ce que tu t'es porté à aller d'abord chez les l'art visuel d'abord, parce que ta mère était ouais. artiste, ensuite la musique, etc., autochtone, puis davantage que d'autres aussi, vraiment, c'est pas particulièrement concentré.
Ben, je dirais que pour l'art visuel, l'art, la sculpture, ces choses-là, oui, je vais avoir cette tendance-là à aller vers l'art autochtone parce que ça me parle plus, peut-être, vu mon passé, vu ma culture personnelle. Oui, dans une certaine mesure, je vais avoir cette tendance-là à le remarquer, à y aller, puis à vouloir explorer ça.
Moi, j'ai découvert la culture, une partie de la culture autochtone, parce que j'ai participé à un film assez important sur les Aïdas dans l'Ouest, qui sont au niveau artistique, c'est absolument exceptionnel, extraordinaire. Les fameux totems, c'est pas juste des totems. Là.
Leur iconographie est très, très, très présente partout, on la voit aujourd'hui, oui.
Ça a un peu essaimé chez d'autres nations que les Aïdas. Hein.
Ouais, ben c'est un peu comme les les cases de plumes, là, les chapeaux de plumes ou les choses comme ça, qui ont beaucoup, ils se sont beaucoup inséminés dans d'autres nations. Est-ce que c'est à cause d'Hollywood? Est-ce que c'est à cause que c'est impressionnant comme, comme coiffe? Je ne sais pas, mais oui.
As-tu tendance, toi, à mettre des éléments de vêtements? Toi, je te vois pas avec le chapeau de plume, là, faut pas exagérer, là, on n'est pas dans un film américain. Mais as-tu tendance à mettre quelque chose?
Un collier, en général.
Ah oui?
Ouais.
Quand un collier
d'un ours.
Avec une patte d'ours, là?
Non, une tête d'ours.
Une tête d'ours, OK.
Une tête d'ours faite avec des perles de verre puis du nacre que ma mère m'a faite. Les deux colliers que je porte, c'est des ours que ma mère m'a montés. Celle-là, elle a même sculpté. Elle m'avait dessiné un logo personnel à l'époque où j'étais conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak. Puis j'ai dit qu'il me manquait de bling. Bling, bling, native, bling, bling. Fait que là, ma mère m'a fait ça, cette tête d'ours-là.
T'as fait un bout en politique, mon Snorro, hein?
Ben oui, j'ai été conseiller au Conseil des Abénakis d'Odanak pendant 2 ans. J'ai été élu de décembre 2013 à décembre 2015 et j'ai été député à l'Assemblée nationale d'Abitibi-Est de 2007 à 2008. J'ai été 20 mois.
Ça, faut que tu me parles de ça, là. Okay? L'Abénaki qui rentre à l'Assemblée nationale, là, il est traité comment, là?
Ben, il était traité de la part, en tout cas de mon parti, comme une belle surprise dans cette défaite qui était la défaite avec André Boisclair. Donc, je pense que les gens voyaient quand même au moins un peu de positif là-dedans. À l'Assemblée nationale, j'étais quand même assez écouté quand je parlais dans les commissions, les choses comme ça, du fait que j'étais le seul autochtone. Un peu la même chose dans mon caucus. On peut se sentir seul aussi.
Oui, hein? Ça peut arriver. C'est comme dans n'importe quoi, finalement.
Ouais. Ben, j'avais un peu l'habitude d'être le seul de ma gang. Je suis éducateur à petite enfance de formation, fait que j'étais tout le temps le seul de gars là-dedans.
Mais toujours fier d'être un autochtone.
Oui, de plus en plus aujourd'hui. Mon identité s'affirme plus grandement là-dedans. Puis mes études en droit, en général, te rendent plus conservateur. Moi, mes études en droit m'ont rendu plus radical dans mon identité. Quoi, Janie? Alex Wawanaloa, t'as l'appareil.
Bonjour, ici Janie Bassacatouche. Comment allez-vous?
Ben, ça va bien, toi? Ou vous, on pourrait se vous voyez.
Faites pas semblant de pas vous connaître, quand même.
on était un petit peu à l'école ensemble, il y a quelques années.
Ah oui, où?
À Kiona, t'es pas allé à Kiona?
Non, je suis jamais allée à Kiona.
Non, ben je confonds avec quelqu'un qui te ressemble beaucoup, 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 beaucoup.
Ah, ça se peut être que ça soit Daisy.
Ouais, mais je suis allé avec Daisy, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi. Je pensais que t'étais
peut-être
là aussi.
Daphné.
Ouais, ça doit être ça. Mais en tout cas, je m'excuse.
Daphné, on nous confond souvent, moi et Daphné. Donc, c'est ma cousine aussi, donc
ouais,
ça
ouais,
change
ouais.
Rien.
OK. Tu travailles à Wapikoni Mobile.
Oui, je suis responsable de la mobilisation et impact collectif depuis bientôt un an.
OK. Puis, t'as plusieurs films à ton actif?
Oui, j'ai peut-être 8-9 courts-métrages en ce moment. Il y en a un que je viens de terminer. Donc, il y en a un qui était sélectionné en France. Je peux pas trop en parler.
Oh, c'est une...
J'en parlerai après, plus tard.
Ouais, on pourra peut-être faire un petit bout de culturel avec toi. Tu vas être ici avec nous pour nous parler des clichés. Quel cliché que t'aimerais aborder?
Ben, en gros, en général, l'idée que j'avais proposée, c'est comme... Parce que en ce moment, c'est un peu comme les clichés qui ressortent beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les articles de journaux. C'est comme déconstruire. Moi, je veux déconstruire le cliché. En ce moment, c'est qu'il y a un courant de pensée qui passe et que c'est facile de lancer à des personnes « Ah, oh, tu payes pas de taxes. Ah, oh, il y a pas si. Ah, oh, vous avez tous des problèmes d'alcoolisme. » Toutes les affaires de même.
Moi, vous avez tout gratuit.
Oui, tout gratuit. Ah, moi, si j'avais tout gratuit, je pense que je serais pas ici. Je serais à Hawaï. Moi, je veux comme expliquer pourquoi. Tu sais, je veux comme, OK, je vais prendre ta question, je vais la prendre. OK, je vais t'expliquer pourquoi on paye pas de taxes. Il y a de ce fait, pourquoi, quelle année. C'est comme, je veux apporter ça. Parce que je veux aussi donner aussi la chance aux gens de comme, essayer d'être capable de faire des discussions un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus fournie, un petit peu plus humaine aussi. C'est une vision humaine que je voudrais apporter aux clichés pour que le monde comprenne pourquoi ce genre de clichés existe et continue à être véhiculé.
Donc, tu vas être ici une fois par semaine avec nous.
Ben, c'est ce que j'avais compris. Mais il y en a plein, donc je me suis dit, bon, c'est un bon moment de comme s'attaquer
J'en ai Robert Blondin ici. Quand on parle de Wapitoni, là.
Wapitoni,
je me trompe plus le temps, c'est pas grave.
Wapitoni.
Ouais. En fait, quand on parle d'une initiative vraiment où il y a eu des moyens de blancs mis à la disposition des Autochtones qui en ont pris finalement charge à peu près totalement, c'est un bel exemple, non?
De
joint, on voulait faire des ponts entre les nations, entre les Premières Nations et les autres. C'en est un, non?
Wapikoni?
Ouais.
Oui.
Mais non, Ça permet beaucoup d'éducation, en tout cas.
Comment j'entends?
ça permet beaucoup d'éducation, les films de Wapikoni.
Oui.
Est-ce qu'ils sont distribués? Est-ce qu'ils sont beaucoup distribués, les films?
Oui, non, on a 3 agents à la distribution qui sont occupés à l'année.
Ouais.
Donc, il y a énormément, il faut faire tout le tour des festivals à travers les pays, le monde, les différents genres aussi, les langues, les styles. Donc, on a à peu près au-dessus de 1000 œuvres dans la collection Wapikoni. Et c'est le fun de voir voyager les films à travers le monde. Donc, ça atteint un public aussi. C'est pas nécessairement aussi propulser la parole autochtone, mais c'est aussi propulser les talents autochtones.
Ils sont où en ce moment, Wapikoni, dans les communautés?
En ce moment, on n'est pas vu la condition pandémique.
À cause de la pandémie, oui.
Oui, on est pas mal en virtuel en ce moment.
OK. Donc, vous aidez des jeunes à faire du montage, qui pourraient prendre leur caméra, leur téléphone pour en faire des films?
Oui, en ce moment, on a une cohorte 3 qui a commencé, c'est la troisième qui a commencé cette semaine. Et dans le fond, on leur offre tout ce qu'ils veulent. Si on peut leur donner de l'aide à la scénarisation ou pour un dépôt de projet ou pour faire un clip, un court-métrage. Il y en a qui sont un petit peu plus expérimentés, d'autres moins. Donc, on essaie de trouver une balance entre tout le monde pour que ça soit plus accessible à tous.
OK, super. Ben, j'ai bien hâte de t'entendre dans les prochaines semaines. Tieneskemeten, je m'excuse pour mon inou. Va falloir que j'améliore ça.
Merci, Jolie. Merci.
Merci.
Quoi, Eric?
Oui, ça va bien.
Oui, ça va bien, toi?
Excellent, Alexis. Ben oui, certain.
Donc, tu vas être un de nos chroniqueurs ici à l'émission.
Il s'appelle Eric, mais il s'appelle Eric Pouliot-Tisdain aussi.
Oui,
là?
Pardon.
Exactement.
Encore là.
Qui est un autre chroniqueur qui va être régulièrement avec nous dans cette série d'émissions. On l'a rencontré, moi je l'ai rencontré avant, je l'ai découvert, mais il est connu dans le milieu des Autochtones.
Oui, par ses recherches.
Alors, veux-tu nous en parler un peu de tes recherches, Eric?
Ben oui, certain. C'est beaucoup des recherches. J'ai débuté pas mal dans des analyses démographiques de certaines populations, jusqu'à aller plus loin, finalement, dans des correspondances gouvernementales sur la création des réserves et tout ça. Fait que je suis passé, disons, des recensements des populations en faisant des analyses démographiques, pour finalement aller dans les correspondances ministérielles exposant la création des réserves et les périmétrages et tout ça, la loi sur les Indiens.
Il y a un autre sujet, Eric, que j'ai entendu parler quand on s'est rencontrés. Tu es un peu un spécialiste pour vérifier si les gens sont vraiment autochtones?
Ben, en fait, grâce au recensement puis au registre paroissial, entre autres, on peut effectivement constater que les gens qui étaient inscrits sur les listes de bandes et dans différentes correspondances ministérielles ou alors dans des archives d'écoles résidentielles et tout ça, donc tous les noms de tous les individus éventuellement apparaissent dans diverses archives, fonds d'archives, tant fédéral que parfois provincial aussi. Alors, étant donné que c'est sous juridiction fédérale. C'est généralement pas mal tout dans les archives fédérales qu'on trouve les données sur les Autochtones.
On t'avait vu à Infoman, hein, à propos du premier ministre Legault sur ce sujet?
Oui, c'est ça exactement.
Son arrière-arrière-arrière-grand-mère?
Oui, c'est ça, parce qu'il avait mentionné le nom qu'à peu près entre 60 à 80 % des Québécois ont comme ancêtre.
La même personne?
Oui, la même personne, oui, parce que étant donné que c'est une toute petite population au Québec...
Elle était de bonne humeur?
Oui, c'est ça. Il y a eu environ, tu sais, comme 190 à 200 unions mixtes au Québec de 1600 à 1800. Puis la majorité de ces enfants-là sont retournés en communauté autochtone, mais il y a on dit 197 unions mixtes de 1600 à 1800, puis ça, c'en est une de ceux-là.
As-tu été témoin de gens qui étaient des Blancs et qui, tout à coup, se trouvaient des personnalités, une identité autochtone pour des raisons peut-être d'intérêt?
Ah ben oui, c'est ça. C'est d'une grande popularité depuis... Je dirais que depuis la crise d'Oka, ça a créé un grand éveil chez la population au Québec. Puis environ 10 ans plus tard, les répercussions se font sentir. Plusieurs groupes métis qui apparaissent, des gens qui s'auto-identifient autochtones avec un ancêtre, un de ces ancêtres-là, de ces 190-97 ancêtres-là de 1600 à 1800, dans leur généalogie. Puis là, soudainement, c'est probablement quelque chose de sociologique, psychosociologique, où les gens se sentent peut-être pas très, très à l'aise d'être dans un pays qui a été colonisé, puis tout ça. Puis les gens, pour se déculpabiliser peut-être sociologiquement, psychologiquement, de se trouver un ancêtre autochtone, c'est peut-être moins pire un peu.
C'est toi qui m'as appris que les Métis de l'Ouest n'étaient pas vraiment des Amérindiens. Je vais revenir avec mon nom encore, mais des Autochtones. Je vais me corriger, Alexis, je vais me corriger.
Ben, en fait, oui, les Métis de l'Ouest sont justement des Canadiens français, des anglophones, des Irlandais, des Écossais qui se sont métissés avec des cris des Algonquins notamment. Et puis, ils ont fondé une nation spécifique parce qu'ils avaient développé des atouts linguistiques, des atouts culturels particuliers. Donc, ils se sont logés dans le Manitoba et tout ça, comme on connaît l'histoire de Louis Riel et tout ça. Tandis que, oui, certains de leurs ancêtres sont restés ici. Ils ont marié des Canadiens français, puis ça s'est éteint parce qu'on sait que si on demande à quelques de ces individus-là qui sont les descendants des ancêtres super lointains, qu'est-ce qu'ils ont, disons, comme culturellement de conjoint un avec l'autre? Il n'y a personne qui peut nous répondre. Il n'y a personne qui a conservé un dialecte, une langue, une culture.
Ah oui. Il s'appelle Éric Pouliot-Tisdale, celui qui nous parle. Là. Il va faire une chronique régulièrement dans cette série d'émissions. Tu vas aborder, tu as 30 secondes pour nous dire, quelle sorte de sujet tu vas aborder dans ta chronique?
Ben, disons, il y a plusieurs thèmes que je trouve marquants. Il y a évidemment le droit de vote autochtone qui a été voté à la Chambre des communes en 1969, mis en pratique en 72 ici au Québec. La collaboration des Autochtones avec l'armée puis la couronne britannique, disons, durant certaines guerres, 1763, 1812.
Ça donne le goût, Éric. Ça va être un plaisir de se retrouver ensemble dans cette série d'émissions. On va avoir du fun avec lui, Alexis.
Ben oui. Allez, Oni, Éric, à la prochaine.
Salut.
Ben, plaisir, puis donc, à bientôt.
Oui.
OK. Just swap with none, reaching one night.
chat, tu ti es tout mon jihad. Ne pas quoi de nan, tu n'en kenyat. A ti kamek ino, 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 a ti kamek ino.
C'était Scott Pienpikor, qui est né à Wahatmak Maliutenam. C'est un artiste qui était nommé dans la catégorie artiste autochtone de l'année. On l'a vu aussi beaucoup dans le concours.
L'Outhma, c'est l'intérieur des terres. C'est là où il y a les médicaments, c'est là où il y avait la nourriture. C'est dans le Outhma qu'on trouvait notre identité, notre culture. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Ni inu
dahanagahan. Dis-toi, est-ce que t'es une grande poète?
Faut pas parler de ça.
Quoi, Kim?
Quoi, Alexis?
Ça va bien, toi?
Kim Abomsawin, la réalisatrice de ce film,
oui.
Alexis. Oh, wow! Quel film!
C'est un très beau film, oui.
Merci beaucoup. Merci de me recevoir à cette première.
Oui. Non, l'honneur est... Je vais prendre la parole. Vas-y. Tout de suite, Alexis. OK, moi, te la voler tout de suite. J'ai trouvé ce film-là... écoutez, j'ai fait du cinéma. J'en ai vu je sais pas combien, là. C'est un des très, très beaux films, sinon le plus merveilleux film que j'ai vu sur... la réalité autochtone à travers Joséphine Bacon. C'est absolument extraordinaire. C'est éclairant, c'est tendre, chaleureux. Il n'y a pas de flagornerie là-dedans non plus. On ne tombe pas dans les clichés de revendications historiques, avec raison ou pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a simplement une espèce d'admiration devant quelqu'un, une poétesse extraordinaire, il faut dire Joséphine Bacon, mais devant aussi... les paysages qu'elle revisite, les gens qu'elle revoit. Mais vous avez eu un talent de réalisatrice et de monteuse là-dedans extraordinaire tout le long, pendant ce quoi? Ça dure quoi? Une heure et demie ou quelque chose comme ça?
Ouais.
76 minutes.
73 minutes. Mais ça donne... On sort de là, on a l'impression d'avoir eu un cadeau, une espèce de clé dans la serrure autochtone. Extraordinaire. Il y a des choses que j'ai compris de l'âme autochtone en regardant ce film-là que j'avais jamais compris dans un paquet d'autres films que j'ai vus sur ces sujets-là.
Hmm. Ben, mon Dieu, ça me touche beaucoup, votre message. On a essayé, quand on m'a confié ce film-là, évidemment que ça m'est arrivé comme un cadeau tombé du ciel. Joséphine, évidemment, comme tout le monde qui la connaît, c'est quelqu'un que j'aime.
Joséphine est un cadeau. C'est un cadeau, Joséphine, en soi.
Oui, donc avoir la chance. Puis bon, on s'entend, quand on fait un film sur quelqu'un, on se doute bien qu'il n'y en aura pas deux. Donc, grande responsabilité, grande mission, mais en même temps, chance extraordinaire que de... Je la connaissais, mais je n'avais pas jamais eu la chance de la côtoyer comme j'ai eu la chance de le faire pendant toute cette grande aventure qui s'est quand même échelonnée sur 2 ans. Ça a été, sur le plan humain surtout, et professionnel bien sûr, une des plus belles expériences de ma vie. Et puis, je vous remercie de vos bons mots sur la réalisation. Quant au montage, c'est pas moi qui l'ai fait. Je vais saluer mon ami Alexandre Lachance, qui est un grand monteur et puis qui a su vraiment tisser avec brio, avec beaucoup de poésie, ce film-là. Donc, on a vraiment essayé sur le plan technique, là, tant au niveau de la direction photo que du son, du montage sonore, de la musique, du montage, d'être à la hauteur de l'œuvre, de la magie de l'œuvre de Joséphine Bacon. Donc, merci de le noter.
Il y a une scène là-dedans qui représente très bien à quel point vous avez soutenu ce défi-là de façon extraordinaire. C'est quand vous portez Joséphine Bacon sur vos épaules dans la toundra.
Ah, c'est pas moi qui la porte, c'est Marie-André Gill.
Ah, c'est elle?
Donc,
okay.
Oui, donc Marie-André, jeune poète, quand même dans la trentaine.
Eh bien, pas vieille, tu sais. Ouais.
Mais c'est quand même une poète maintenant bien établie, une auteure très établie. Donc on a choisi d'aller avec elle dans cet endroit fantastique qui est Mouchoir-Nipi, qui est le territoire des ancêtres de Joséphine, le pays du Caribou. Et puis Joséphine, elle a ce fantastique poème où elle dit justement « Je porte ma grand-mère sur mon dos, mais je nous ploie sous tant de sagesse. » Et c'est sûr que l'image est tellement forte que Marie-André a porté littéralement Joséphine sur son dos. Et puis elle dit « C'est vrai que les genoux ploient un peu. » On faisait des blagues avec ça, mais c'est parce que... et puis après ça, il y a Joséphine qui nous raconte que c'est pas juste une image, le porter sa grand-mère sur son dos. Les anciens amenaient leurs aînés dans le bois parce que comme le dit avec sa couleur, Marie-André, c'est l'ancêtre de Google ou de Siri.
Oui.
Mais ce que Joséphine dit de magnifique, puis moi je trouve que c'est la phrase du film, elle dit « On avait besoin d'eux pour plein d'affaires, mais surtout pour raconter le début du monde à nos enfants.
Oui. »
Et puis ça parle d'une vision du monde propre au premier peuple et à ceux surtout qui pratiquent encore leur mode de vie activement. Parce que moi, je vous avoue, je me suis sentie coupable d'entendre ça et de me dire « Ben, coudonc, j'ai jamais fait ça encore, moi, raconter le début du monde à mes enfants.
Mm-hmm. »
Pourtant, ça fait tellement de sens, j'ai vraiment trouvé ça magnifique.
Ben, il y a d'autres choses que le début du monde qui est raconté. Entre autres, l'écologie. On parle tous, à des degrés divers, d'écologie. C'est extrêmement important de nos jours. La scène où Joséphine Bacon est assise devant la carcasse, enfin le corps de cet animal qu'on vient d'abattre pour le pouvoir le manger, etc. Le discours qu'elle lui tient, parce qu'ils vont le manger, est une leçon d'écologie plus savante et plus poétique que ce que j'ai jamais vu ou entendu ailleurs.
Oui, écoutez, c'est sûr que c'est toujours sensible et délicat de porter à l'écran un animal qui vient d'être chassé. On s'attire souvent des critiques quand on le fait. Il y a encore des gens pour qui c'est douloureux de voir un animal mort à la télé. Puis je comprends, étant autochtone, c'est sûr que moi, je comprends cette importance-là de la chasse et tout ça, mais
pas tout le monde qui est prêt de ça, donc il faut être délicat dans notre approche. Mais je savais qu'avec Joséphine, on allait gagner le cœur de tout le monde. Puis j'ai présenté ce film à plein de véganes qui m'ont dit avoir tiré de grandes leçons et avoir enfin compris ce que ça voulait dire pour un Innu, pour un membre des Premières Nations, premier peuple, ce que ça voulait dire que de tuer un animal pour le manger et de le faire dans le respect. Donc, Joséphine, grande leçon de vie, assurément.
C'est Alexis. J'ai trouvé beaucoup de contemplation, beaucoup d'introspection dans ton film. Mm-hmm. Puis j'ai vu à la fin que tu avais dédié le film à ton Marc, là, à peu près un an et demi, c'est ça, t'as eu à vivre un gros deuil. Est-ce que ça, mm-hmm. ce film-là fait partie de ton processus de deuil?
Ben, oui, tout à fait. En fait, ce film-là, évidemment, quand on fait un film, ça, c'est long. Mm-hmm. Donc, donc j'ai perdu mon mari en juin 2019. J'ai écrit le scénario de Je m'appelle humain en 2018. Et puis, Marc a toujours été...
Il a toujours été ton partenaire dans tout ce que tu as fait.
Dans tout ce que j'ai fait, parce que Marc était dans l'industrie aussi, à la prise de son. Puis mm-hmm. donc, quand il est tombé malade, ben il vivait beaucoup son travail par procuration à travers mes projets. Puis il m'aidait beaucoup, puis il me supportait énormément. Puis quand je suis partie tourner sur la Côte-Nord, toutes les séquences qu'on voit... pas dans le mouchoir ni puis dans la toundra, mais toutes les séquences qu'on voit avec la famille de Joséphine, on savait pas à ce moment-là qu'il restait aussi peu de temps, mais on venait quand même de se faire dire qu'il restait maximum à Marc. Il restait 3 mois à 12 mois à Marc à vivre, puis Marc a insisté pour que je parte finir le film, parce que pour lui, c'était vraiment important, puis il m'a porté là-dedans. On a fait même un souhait en pensant pour lui quand on était à Equanchit. Donc, ça a été des grands moments, ça a été vraiment important pour lui que je le fasse. Donc oui, ce film-là, je l'ai réalisé en portant déjà ce début de deuil. Et puis ensuite, on a fini de le tourner, puis il était décédé, donc il a été phénoménal du début à la fin, puis je pense que ça fait ça a donné l'œuvre que ça donne aussi, peut-être parce que j'étais à cette étape-là dans ma vie avec une certaine émotivité, sensibilité exacerbée.
Mais moi, je l'ai senti un peu en voyant le film. Je te connais, là, c'est sûr. Donc,
On en parle beaucoup du film. On peut le voir, on pourra le voir où, ce film-là, extraordinaire?
Ben, c'est ça. Évidemment, COVID oblige, ça chamboule toute notre sortie. Donc, c'est avec un peu de peine quand même que la sortie en salle est chamboulée, parce que ça sort demain en salle, officiellement. Donc, la sortie, c'est demain, vendredi 13. Mais il y a seulement que Rimouski qui a la chance d'avoir une salle de cinéma ouverte et qui va passer le film dès demain, en vrai. Sinon, ben, vous pouvez... passer par les plateformes en ligne du cinéma du parc ou du cinéma Beaubien ou du cinéma moderne et l'écouter dans le confort et dans la sécurité de votre salon dès demain.
Il faudra que tout le monde le fasse.
Oui, hein?
Il faudra prendre les coordonnées.
La bonne nouvelle aussi, c'est que les cinémas sont très conscients de la situation. Et dès que les cinémas vont réouvrir, on nous promet là, de quand même sortir le film en salle, même s'il a été diffusé avant sur le web. Donc, il y aura des événements spéciaux, parce que c'est vraiment un film qu'on a créé pour le cinéma, pour le grand écran.
Les images sont tellement extraordinaires, il faut voir ça sur un grand écran, c'est possible.
Les images sont extraordinaires, mais le son aussi, puis tout ça, le soin qu'on a mis à la colorisation. Donc, vraiment, venez le revoir en salle. Gardez pas votre plaisir en attendant. Écoutez-le chez vous, mais revenez nous voir en salle, ça va nous faire plaisir.
Comme on disait que ce film-là doit faire œuvre utile et très, très, très instructif, je sais que d'autres de tes œuvres ont été diffusées chez Canal D ou dans d'autres diffuseurs. Est-ce qu'il y a des discussions éventuellement pour ce film-là aussi?
Qu'est-ce que tu veux dire par
rapport à... Éventuellement pour une diffusion plus large.
Oui, en fait, le film, à la base, a été financé par Radio-Canada. Donc, on en a fait un long-métrage. Donc, le long-métrage sort avant. Mais le film va également sortir à la télé le 23 novembre, qui est bientôt. Et puis, après ça, sur toutes les plateformes. Là, donc, ça va être annoncé. J'invite les gens peut-être à s'abonner à la page Facebook du film « Je m'appelle humain ». Et puis, toutes les nouvelles, toutes les informations sur les diffusions sont bien indiquées. Donc,
vous savez, Kim O'Bonsawin, cette série qui commence, cette nouvelle série d'émissions, émission est destinée à voir ce qu'on peut trouver de pont entre les Premières Nations oui. et les, ceux qui ne sont pas des Premières Nations. Et je oui. pense que ce film-là, il n'y a pas de meilleur film, il n'y a pas de meilleur outil culturel qui oui. plaise à la fois aux Blancs et à la fois aux Premières Nations. Les, on est oui. ému des deux côtés également. Et peut-être pas pour les mêmes raisons, on verra.
Ben, tant mieux, parce que Joséphine, c'est une grande passeuse. C'est quelqu'un qui n'est jamais dans la colère, qui est toujours dans. Étant toujours la main à l'autre. Donc.
Là-dessus, oui, je vais dire. Oui. Là-dessus, Kim, je vais dire Oléonie. Merci beaucoup.
Oléonie, merci.
Au revoir. C'était Alexis Wawanelwat.
Robert Blondin ici. On va se retrouver la semaine prochaine avec grand plaisir dans cette nouvelle série d'émissions, Alexis.
Ben oui, ça va être le fun.